n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Je dis les rêves continuent, mais en fait vous allez pousser un coup de gueule ce matin.
Et oui, cet été est paru dans Le Monde un entretien de l'écrivain voyageur Sylvain Tesson. Il y développe notamment ce qu'il appelle la starbuckisation du monde. Entendez l'uniformisation de nos modes de vie, favorisée par Internet, machine qui, je cite, est capable de réaliser la conformation absolue de l'homme à un modèle unique. Toujours très pertinent. Et pourtant, en le lisant hier avec 2 mois de retard, je dois dire que j'étais hors de moi. Le problème n'est pas Sylvain Tesson, mais cette critique incessante de l'uniformisation. Quel est le problème avec le fait que tout le monde devienne semblable ?
Un mouton, c'est bête un mouton. Deux moutons, c'est bête, bête deux moutons. Le principe est tout bête, un mouton c'est un mouton. C'est bêta, c'est bébête, c'est ballot, c'est concon. Un nigo plus un bonnet, simplon que multiplie. Simplet fois simplon font qu'un troupeau, c'est couillon.
Tout le monde se ressemble, tout le monde s'habille pareil, mange pareil, pense pareil et tout le monde pense que tout le monde est pareil. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Starbucks, Zara, Nike, l'iPhone, McDo, Google en sont les signes les plus frappants. Condition de l'uniformisation la plus crasse. Mais que monsieur et madame tout le monde sont bêtes, ils sont comme les autres et on est donc tous les mêmes. Tout le monde est donc comme tout le monde et même celui qui pense s'en extraire. C'est magique et tragique et ce qu'il est encore plus avec la critique de l'uniformisation, c'est qu'il n'y a rien de plus uniforme. Ceux qui se pensent les plus originaux à pointer le danger de la globalisation sont en fait les plus attendus. On dirait même, comble du sort, qu'ils font partie du processus global, capable de déculpabiliser les plus lucides tout en les laissant continuer à faire comme tout le monde. Un jour Sylvain Tesson, l'autre Nietzsche et sa critique de la démocratie, un jour Richard Gottener et sa chanson « Mouton », l'autre « Tocqueville » et sa crainte de légalisation des mœurs. Peut-on penser autrement ?
Moi qui suis un pur être de nuance, je ne peux être que radical. Je ne vois absolument pas de progression chez mes semblables qui sont gratifiés depuis une vingtaine d'années des outillages numériques. Je ne vois pas de progression du mystère, du charme, de la connaissance, de l'originalité, du génie du langage chez les êtres humains.
Pourquoi, quand on écoute Sylvain Tesson, on est au fond pas très surpris ? Pourquoi sa radicalité n'est-elle pas si radicale et résonne avec cette petite musique tant chantonnée sur le thème du « on est tous pareils » ? Pourquoi, paradoxalement, tout le monde est d'accord sur les dangers de l'uniformisation ? La laideur, c'est quand tout se ressemble. C'est une citation de Sylvain Tesson citant lui-même le neurologue Lionel Nakache. D'un côté, on soutient l'universalité et la démocratie, mais surtout pas de l'autre, l'uniformisation qui va avec, qui impliquerait toute une esthétique de la laideur, toute une morale de la faiblesse, toute une économie de la mondialisation et toute une métaphysique du pire. Serait-on un peu de mauvaise foi ? Regardez, même les films d'anticipation jouent sur ce ressort de l'uniforme. Le pire, c'est quand on sera tous des robots. À la monotonie, il faudrait opposer la différence. Au même, l'autre. À la fusion, la séparation. Au global, le singulier. Au fond, ce qui est pointé, c'est cette incapacité à sortir de soi, à voir l'autre. Mais d'une part, n'est-ce pas là un fantasme sur l'autre, qui serait forcément différent sans Starbucks, sans Zara ou sans Internet ? Et d'autre part, l'uniformité empêche-t-elle vraiment la différence ?
Je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux, qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart et comme étranger à destinée de tous les autres. Ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine. Quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d'eux mais il ne les voit pas. Il les touche et ne les sent point.
J'aime Alexis de Tocqueville encore plus, lu par Michel Houellebecq, et je trouve sa critique de l'uniformisation des conditions vraiment géniale. Pourtant, ce qui me semble désormais terrible, c'est que non seulement elle est devenue commune, malgré sa dimension visionnaire, mais qu'en plus, elle est aristocratique, tout en déplorant au nom du collectif cette crise du tout pareil. C'est cependant chez Tocqueville que l'on trouve une réponse intéressante. Alors qu'il parle dans le premier volume de La démocratie en Amérique des partis politiques au siècle démocratique, il explique qu'ils sont d'accord sur tout, mais qu'ils se déchirent sur des les points de détail. Et il nous dit ainsi deux choses. D'abord, que croire qu'on va échapper au conformisme est un leurre. On reste plus ou moins d'accord sur tout. Mais que malgré tout, il y a de la différence et qu'elle se cache dans les détails, mais qu'elle ne peut se révéler que sur un fond uniforme. Il ne s'agit pas de rêver d'un autre monde, mais au contraire de viser plus que l'uniformisation. Quelque chose par exemple comme l'inclusion, qui elle permettrait d'accueillir tout le monde avec ses petites différences en son sein.
Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo.